Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 3 octobre, bonne journée, bienvenue au 98.5. Ce n'est pas chaud ce matin. Le ciel est dégagé, à peine 2 degrés. Il y a un avis de gel pour le Grand Montréal et plus vous êtes dans les couronnes, ben plus évidemment... on va frôler le zéro dans certains cas. Officiellement, donc, je vous le disais, 2 degrés. On prévoit une journée belle, ensoleillée. 15, c'est parfait. Des conditions idéales pour aller voter. En soirée, ciel dégagé avec un minimum de 3. Donc, la nuit prochaine, ça sera pas chaud non plus. Mardi, généralement, ensoleillé 18. Mercredi, ensoleillé 20. Et jeudi, du soleil 22. Le retour de la pluie est prévu pour vendredi. Et vous avez donc une croissance des températures. Jeudi, le 22, soleil, température parfaite. Et le week-end s'annonce beaucoup plus frais. Alors, ces journées d'élection, c'est-à-dire qu'il y a quoi? 6 millions et un peu plus de Québécois qui ont le droit de vote. Ça se passe dans 125 circonscriptions. Ça va ouvrir à 9h30 ce matin, fermé autour de 20h30. Quand je dis autour, c'est qu'il y a toujours parfois des délais là, pour les gens qui attendent, d'autant plus qu'on manque de personnel dans les bureaux de scrutin d'une douzaine de circonscriptions. Et on dit que ça ne devrait pas trop affecter le déroulement. Puis on invite les gens à se présenter nombreux. Puis je sais que ça semble cliché, mais c'est quand même majeur. Aux 4 ans, il y a cette possibilité d'aller voter. Beaucoup de gens ont levé le nez là-dessus depuis les dernières élections. Est-ce que la présence de 5 partis politiques majeur, on le voit là, un parti au gouvernement et 4 qui représentent l'opposition, des factions, des courants, des idées. Ça mobilise peut-être plus de gens et on le verra un peu plus tard aujourd'hui, mais surtout en soirée. Est-ce que les Québécois sortiront nombreux pour voter? Et statistiquement, ce qu'on a vu dans le passé, d'abord, les gens plus âgés ont tendance à aller voter plus massivement. Et les plus jeunes se font tirer l'oreille. Et on sait qu'il y a vraiment des clivages. Chez les plus jeunes, c'est comme si la gauche et la droite s'affrontaient. Là. D'un côté, vous avez les partisans, les sympathisants du Parti conservateur. Puis de l'autre côté, vous avez Québec solidaire et les autres partis se faufilent. Je ne veux pas commenter plus en détail. La seule chose que je me permets d'ajouter ce matin, c'est qu'il y a vraiment des luttes intéressantes à surveiller ce soir. D'abord, pour 3 chefs, rien n'est réglé dans leur propre circonscription. Paul Saint-Pierre Plamondon, également pour Dominique Anglade. Ce sont des luttes à 3. Dans le cas du comté de Camille Lorrain, c'est à 2 avec, disons, l'expulsion de la candidate de Québec solidaire. Et Éric Duhaime, dans son comté, Chauveau, ce n'est pas gagné. Et il y a des régions à suivre. La région de Québec, en soi, ça va être intéressant. Parce que vous avez le château fort du Parti conservateur, la Beauce, par exemple. Québec solidaire a fait des percées. L'Estrie, je pense au comté de Sherbrooke, c'est une bataille intéressante. Montréal, on a hâte de voir dans certaines circonscriptions 2 choses. Le vote traditionnellement acquis au Parti libéral, est-ce que ça va sortir? Est-ce qu'ils vont conserver leur château fort, mais avec moins d'appui? Vraiment, c'est une soirée intéressante. Je pense que c'est un dépouillement... On n'arrive pas à trancher pour ce qui est des partis d'opposition. Alors, en un mot, c'est le temps d'aller voter. Et je pense que c'est non seulement une responsabilité citoyenne, mais ça peut faire la différence vraiment, là, en tout cas dans ce cas-ci en particulier, dans un certain nombre de comtés. Je veux regarder avec vous certaines actualités internationales. Je trouve ça important parce qu'il se passe des choses dans le monde. Et souvent, on prend pas le temps de regarder la situation. D'abord, en Iran, c'est difficile d'avoir un portrait de la situation parce qu'il y a de la censure, Internet est intermittent. Et donc, il y a un contrôle de l'État islamique qui s'applique, mais officiellement, vous avez des organisations internationales qui prétendent que depuis la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police religieuse, qui est morte en prison quelques jours plus tard, on serait rendu facilement à 90 et 100 personnes décédées. Et le président iranien qui accuse les ennemis de l'Iran d'avoir organisé tout ça, on parle d'une vaste conspiration, pour tenter de déstabiliser le pouvoir. Ce qu'on a vu encore en fin de semaine, ce sont des manifestations importantes dans différents coins du pays, des manifestations qui ont été réprimées violemment par les forces de l'ordre. Mais il y a quelque chose d'historique dans ce qui se passe actuellement en Iran. De voir aux premières lignes toutes ces femmes qui se coupent les cheveux, qui laissent tomber le voile et qui défient, là. Et c'est pas seulement des images qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces femmes mettent leur vie en péril. Certaines ont été assassinées. Et de plus en plus, la répression frappe. Des ressortissants étrangers sont arrêtés. Il y a un rappeur également qui a été appréhendé, une espèce de musicien qui disait « ben j'appuie les femmes dans ce combat ». Et il y a donc cette espèce de coup de balai violent qui passe et qui, c'est la volonté claire du régime de ne pas céder et de les faire taire. Et jusqu'à date, ça ne fonctionne pas. Puis il y a eu cette manifestation à Montréal en fin de semaine, samedi, des centaines de personnes, probablement en plus, qui ont marché dans les rues pour démontrer leur soutien au peuple iranien. Je vais parler tantôt avec Sarah, qui est une juriste qui a quitté le pays à la suite de la révolution de 1979, après avoir été arrêtée. Donc, elle a longtemps habité la France, elle est maintenant à Montréal, et elle avait manifesté contre le régime de l'ayatollah Khomeini, ce patriarcat religieux, puis encore là, les espèce de société où la charia est imposée et les femmes, non seulement ont subi un recul indescriptible, mais encore aujourd'hui, une femme ne peut pas voyager sans l'autorisation de son mari. On est encore là. Et elle a participé à plusieurs manifestations. Elle raconte avoir été arrêtée en 1981, torturée par la police religieuse. Donc, on aura l'occasion de parler avec elle. Elle ne veut pas dire son nom au complet, puis je la comprends, parce que elle vient à peine de récupérer le droit d'aller du côté de son pays d'origine, donc l'Iran, autour de 7h20. On va lui jaser. Un mot sur l'Ukraine. Ça évolue. D'abord, l'Ukraine qui a annoncé avoir repris la ville de Liman. C'est une ville importante. C'est ce qu'on appelle un nœud ferroviaire dans la région de Donetsk. Et ce qui est particulier, c'est que c'est une région officiellement annexée par les Russes. Ça fait partie de la liste présentée vendredi par Vladimir Poutine. Donc, ce processus légal qui n'est pas reconnu par la communauté internationale est très fragile. Et ce matin, le New York Times décrit des scènes où les forces ukrainiennes sont entrées dans la ville de Liman. Il y a eu un certain nombre d'affrontements assez directs, des combats, mais ils se sont retrouvés face à des Russes, je reprends l'expression, avec des yeux vitreux, vides, des gens qui étaient épuisés, démoralisés et qui ne pensaient qu'à fuir, comme si est arrivé un moment où ils ont dit « on se pousse ». Dans un contexte où la mobilisation ne donne pas de résultats, c'est-à-dire d'aller chercher de force 300 000 soldats de plus pour les envoyer au front. Alors, on a vu les Russes se pousser le plus rapidement possible dans différents pays. D'autres qui expriment leur dissidence. Et je lisais certaines analyses. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que cette guerre, la façon dont ça se passe, ça peut se terminer autrement que par la chute de Poutine? Qui continue, par personnage interposé, de jouer avec l'arme nucléaire et tenter de faire peur aux gens. Mais donc, c'est important de voir de plus près ce qui se passe en Ukraine. Il y a, sur le plan politique et sur le plan militaire, des choses majeures qui s'y déroulent. Brésil, là aussi c'est important. Premier tour du scrutin hier, et ça se termine par une avance pour Lula, 48%, l'homme de gauche, et le président sortant, Bolsonaro, qui est à 43 %. Il y aura donc un deuxième tour qui aura lieu, je pense, c'est le 30 octobre. Et là où c'est vraiment une forme d'indication des changements dans le monde. D'abord, les sondages donnaient une avance considérable à Lula, qui a déjà été président. On parle d'une avance de plus de 10 points, 12 points. Et puis finalement, on avait sous-estimé le vote de droite. Un. Deux, Lula a fait de la prison pour une affaire de corruption. Pratiquement, là, de mémoire, un an et demi avant de sortir de prison et d'être blanchi par un juge qui a statué que le premier procès avait été complètement biaisé et qui n'aurait pas dû se retrouver donc en prison pour une affaire de corruption. Il a donc pu reprendre, il a 76 ans, reprendre sa place sur le terrain politique. Et c'était l'affrontement entre la gauche, je vais taxer les riches, je vais redonner aux pauvres, face à un président qui a nié pratiquement la pandémie mondiale, qui a été confronté à plusieurs crises économiques depuis qu'il a pris le pouvoir. Vraiment, deux visions. Et quand je dis c'est intéressant, c'est que Bolsonaro commençait déjà à contester le résultat du vote en disant que le vote électronique au Brésil, c'est pas fiable, qu'il y avait place à de la magouille. Donc, le résultat est pas connu. Tout le monde est inspiré, d'ailleurs, par Trump. Quand tu perds maintenant, c'est « je ne reconnais pas ». Et il y a eu fraude, il y a eu malversation. Là, il est deuxième, mais c'est nettement plus serré. Et le troisième tour de scrutin, ben ce sera intéressant à suivre. Et puis, un mot, faut que je vous parle de ça. Ces immigrants qui sont arrivés au Texas et qu'on a mis dans des avions, qu'on a convaincus de partir vers Martha's Vineyard. Et l'histoire est racontée en détail par le New York Times. Et c'est le gouverneur Ron DeSantis qui en a plein les bras là avec l'ouragan en Floride. Et lui, qui est un climato-sceptique, a bien vu ce que ça pouvait faire, là, des ouragans qui sont pompés par l'eau chaude des océans. Alors, en résumé, on sait qu'on prenait des immigrants qui rentraient par le Texas, puis on leur disait, vous voulez aller à Houston ou une ville du Texas, ça vous coûte une fortune, mais si je vous mets dans un autobus, puis je vous envoie à New York, par exemple, ben c'est gratis. Tout ça pour mettre de la pression sur les démocrates, puis dire, voici ce que c'est l'immigration illégale, puis ça, vous ne l'avez pas dans votre État. Alors, DeSantis a analysé deux avions privés. Il a installé 48 ressortissants du Venezuela dans l'avion. Il a recruté une femme d'origine vénézuélienne pour aller les convaincre en leur promettant des repas gratuits, en leur promettant un hébergement, en disant, allez, prenez le vol, puis la vie en Amérique va vous paraître fantastique. Tout ça pour, on sait que la région de Cape Cod puis de Martha's Vineyard, l'establishment démocrate, les gens les plus en vue vivent dans le coin ou ont une station balnéaire qui accueille l'élite. Alors, c'est une façon pour lui de faire ça, mais ça s'est retourné progressivement contre lui parce qu'on découvre qu'il a pris des fonds publics, que ça a coûté de l'argent. Et même des républicains trouvent qu'il y a une limite à prendre des humains comme ça puis à les promener comme si c'était de la marchandise. Je reviens dans nos dossiers ici au Québec. D'abord, la presse canadienne nous parle d'un cas de signalement d'abus sexuels toutes les deux semaines dans les services de garde. C'est pas plus, pas moins, c'est une trentaine de cas par année. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Le deuxième, c'est que le suivi semble, alors que la procédure est assez claire, là, puis une forme de collaboration, que c'est pas toujours le cas, et que peut-être que la vérification des antécédents pourrait être revue. Je vais en parler un peu plus tard. Est-ce qu'on empêche quelqu'un, je sais pas moi, qui, à l'adolescence, ou même jeune adulte a fait un vol à l'étalage de travailler dans une garderie. Là, je parle pas de ceux qui ont des condamnations là pour de la violence, pour des crimes sur des enfants, pour des crimes sexuels, mais tu sais ce qu'on appelle souvent la gaffe de jeunesse là, faculté affaiblie. Est-ce que on les empêche dans une période où c'est extrêmement difficile de recruter des gens? Hockey Canada, je pense que c'est une farce. Le Globe and Mail nous dit ce matin qu'en plus du fonds qui a été créé, notamment pour payer et faire des ententes hors cours avec des gens qui portaient plainte pour abus sexuels venant de joueurs de hockey, là, Donc, il y avait ce fonds-là, un fonds national, dans lequel on avait mis 7,1 millions. Et là, on apprend qu'il y a un deuxième fonds qui a été créé et que le fonds A met de l'argent dans le fonds B. Et à quoi il sert le fonds B? Grosso modo, à la même chose. C'est comme, pardon, si on voulait créer une série d'entreprises, tu sais, des numéros, là, des filiales, des divisions, pour qu'on perde la trace de l'argent. Et ces patrons-là d'Hockey Canada demeurent en poste comme si de rien n'était. Je voyais Geneviève Janson hier, à Tout le monde en parle, qui grimpait, qui disait que ça n'avait pas d'allure, que cette direction patriarcale, ce club select de boys, soit encore là. La toute puissante Fédération nationale de hockey, tu sais, tu dis, mais ça n'a pas de bon sens. Puis toutes les magouilles, ils refusent que des gens indépendants mettent le nez dans les affaires. Donc, dans le Globe and Mail, vous pourrez lire ça ce matin. Et je vais terminer par ce cas qui est rapporté par le Journal de Montréal. Alors qu'on était en pandémie au mois d'août 2020, c'est un résident d'un CHSLD à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a reçu une dose massive et fatale d'Ativan. Le pauvre monsieur s'appelle Denis Boutin, 74 ans. L'infirmière qui était débordée, on manquait de personnel, scénario classique, a injecté donc 30 mg d'Ativan, un médicament contre l'anxiété. La dose normale de ce produit aurait dû être de 1 à 2. On lui en a donné 30. 30 milligrammes. Puis des erreurs de cette nature, il y en a. Pas toujours avec, un résultat fatal, mais quand même. Et l'enquête du coroner, c'est le coroner Dan Davino, qui conclut que les ressources ont fait des démarches pour remplacer le personnel manquant, mais sans succès. Et que normalement, il aurait dû avoir deux infirmières chefs sur le plancher. Il y en avait une pour 74 patients à sa charge. C'est dans le Journal de Montréal que vous retrouvez le détail. Mais encore là, tu sais, le temps supplémentaire obligatoire, l'infirmière seule pour s'occuper d'autant de monde puis des gens qui ont des médicaments, ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, il est allé aussi d'une série de recommandations, de suggestions pour tenter de corriger ce genre de situation. J'avais fait un documentaire sur l'industrie des médicaments, puis il y a eu des cas comme ça. Tu sais, des fois, c'est comme deux flacons qui se ressemblent. Puis dans la vitesse, on se trompe. Je me souviens d'un cas d'un monsieur qui a reçu une injection, puis ça a provoqué l'affaissement de son poumon, puis il est décédé. C'était pas destiné à lui. Puis je me souviens aussi de Dr Laberge qui dit, quand vous êtes à l'hôpital, idéalement, soyez accompagné de quelqu'un. Surtout si vous êtes inconscient, là, est-ce que c'est le bon médicament qu'on donne aux bons patients? Parce que ça peut arriver des fois qu'on se trompe. Puis des cas, il y en a eu quand même malheureusement un certain nombre.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Dans quoi? 150 villes au minimum au cours de la fin de semaine, des manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer le régime de Téhéran et pour évidemment protester contre la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme qui est décédée quelques jours après son arrestation par la police des mœurs, police religieuse, parce qu'elle ne portait pas correctement le hijab. Mais ces manifestations vont au-delà du voile. On a vu ces femmes tenir tête aux forces de l'ordre. La répression qui s'est abattue. D'ailleurs, on signale en fin de semaine que que sur un campus universitaire de Téhéran, les forces de l'ordre ont ciblé des manifestants, des tirs qui ont été entendus. De nombreux étudiants ont été bloqués à l'intérieur. Il y a eu également des arrestations massives, des ressortissants étrangers qui ont été arrêtés. Et malgré tout cela, depuis le début de cette confrontation, un peu partout en Iran, on voit ces femmes qui sont aux premières loges, première ligne, et qui se coupent les cheveux, qui rejettent le voile et qui font face aux policiers dans un pays où il est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe avec la censure et le contrôle de l'Internet. Sarah est avec nous. Elle est juriste d'origine iranienne. Elle a participé à cette marche du 1er octobre en support avec le peuple iranien. Et c'est une femme qui a vécu en Iran, qui a vécu d'ailleurs la révolution de 1979. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Parlez-moi un peu de vous. Je le disais, vous êtes d'origine iranienne, vous avez vécu la révolution. Partons de là, puis racontez-nous un peu votre parcours.
La révolution de 1979 était une révolution démocratique. Bon, tout le monde dit que la révolution était la révolution islamique, mais les islamistes, à la fin des émeutes iraniennes, ils ont pris le pouvoir. Il y a plusieurs raisons, la politique mondiale, intérieure, tout ça. Moi, on n'a pas le temps de parler de ça. Mais à l'intérieur de l'Iran, majoritairement, on peut dire, des intellectuels ne voulaient pas ce gouvernement. Donc, dès le début, surtout les femmes. Un mois après la révolution, les femmes étaient dans la rue pour réclamer leurs droits. Le 8 mars après la révolution, les grandes villes d'Iran étaient remplies de femmes. Ils criaient la liberté n'est ni occidentale ni orientale, c'est universel. On veut la liberté. Donc, parce qu'elles sentaient le danger de ce gouvernement. Avec les slogans démocratiques, anti-impérialistes, ils ont pris le pouvoir, mais les femmes, elles ont senti que c'est une sorte, ils disent république, mais ce n'est pas une république.
Ça veut dire que les femmes ont perçu rapidement que cette révolution ne serait pas une révolution permettant la démocratie, que c'est une révolution où leurs droits seraient bafoués assez rapidement.
Oui, parce que il y avait des actes aussi. Ce n'était pas seulement le sentiment des femmes. Parce que tout de suite après la révolution, le guide suprême, Monsieur Khomeini, il a aboli le loi de protection de la famille, une partie du code civil. Donc, où l'âge de mariage était 18 ans, les femmes, elles pouvaient avoir garde-enfant, tout ça, c'était aboli. L'âge de mariage est descendu moins de 9 ans. Donc, il a ordonné que les femmes, elles sont sensibles, elles ne peuvent pas être juges. Donc, toutes les juges, les femmes juges, étaient licenciées.
Vous avez vous-même été arrêté en 1981 parce que vous participiez à des manifestations contre le régime.
J'écrivais des articles, je protestais contre la dictatorship qui venait petit à petit s'installer. Et quand... pas seulement les manifestations.
Mm-hmm. Et comment, quand on vous a arrêté, comment ça s'est passé avec la police?
Bon, quand j'ai été arrêtée, puisque j'avais ma situation, c'était la période de la guerre. J'étais sud d'Iran, j'avais une position assez importante au niveau de mon position de travail. Donc, dans la prison, je n'ai pas accepté de mettre le tchador. Il a obligé les femmes à porter le tchador. Et une fois, ils m'ont pas par punition ou de, mais je n'ai pas eu le tribunal. Mais ils m'ont frappé parce que j'ai protesté leur insulte à l'égard des fillettes de 15 ans.
Il faut juste que les gens comprennent bien. Vous avez refusé de porter le tchador et alors que vous étiez en détention, en prison, et on vous a frappé pour ça.
Ce n'est pas seulement pour ça. J'ai dit, bon, dans une discussion, j'ai protesté pourquoi vous insultez les filles. Parce qu'il y avait des gros mots, il a insulté une fille qui avait mal à la tête et elle réclamait le médecin. Il n'amenait pas le médecin, mais j'ai protesté, ils m'ont sorti de cellule et ils m'ont frappé violemment.
Pour faire un résumé, vous avez quitté le pays, vous avez vécu en France, vous êtes au Canada depuis 2008. Pourquoi vous êtes allé marcher samedi?
Bon, en étant une militante des droits de l'homme et la démocratie, je sens que c'est mon obligation jusqu'à la fin de ma vie où je trouve la démocratie est bafouée, je vais protester. Donc, ce n'est pas seulement parce que je suis iranienne, mais je vois qu'elles ont droit. Ça veut dire qu'elles ont de bons chemins, ces jeunes. Donc, il me faut, c'est un devoir participer.
Pourquoi ce sont les femmes qui ont pris, je dirais, le leadership de cette contestation du régime autoritaire?
Ce que je vous ai dit, parce qu'il y avait continuité des luttes des femmes. C'est commencé par les manifestations. Les manifestations étaient bafouées, et les gens étaient arrêtés. Après, il y avait pas mal de femmes qui elles ont brûlé leur foulard. Après, il s'est mis du feu, il se démolit pour protester contre le foulard. Par exemple, un médecin pédiatre Homa Darabi. Après, il y avait pas mal de suicides comme ça, mais il y avait des activités à l'extérieur d'Iran et à l'intérieur. Diaspora a eu toujours, nous avons eu 30 chaque fois, une fois par an, un rassemblement comme un congrès dont discuter à propos des problèmes en Iran. Donc, c'est une continuité. Ce n'est pas seulement que la mort Mahsa Amini a mis feu aux poudres. C'était prêt. Les femmes, elles ne pouvaient pas accepter. Les femmes iraniennes, elles sont très, très diplômées, éduquées, mais ils veulent à force les pousser dans le foyer.
Croyez-vous qu'il y aura des réformes? Croyez-vous que le régime va chercher à faire des accommodements ou si on va utiliser la répression, la police pour les faire taire?
Ce régime-là, le peuple iranien est très, très patient. Ça fait 40 ans avec les votes, avec les manifestations, passivement, ils ont demandé un peu de changement. Respecter le droit des gens. Mais, monsieur, ce régime-là, ce n'est pas un régime politique. C'est devenu une poignée de bandits qui prennent seulement la richesse d'Iran. Ils envoient dans les pays comme leurs enfants avec l'argent d'Iran au Canada, aux États-Unis. Ils sortent de la richesse d'Iran. Il est en contradiction avec tous les pays du Moyen-Orient, avec l'Occident. C'est une bandit au pouvoir. Par exemple, pour faire céder les gouvernements occidentaux, il prend les gens iraniens, par exemple, les gens qui ont double nationalité, en otage pour obtenir l'argent. C'est un bandit, ce n'est pas un régime politique. Donc, ces manifestations, ces mouvements c'est obligatoire, doit être réussi. Si le gouvernement réussit encore réprimer cette manifestation, ça sera catastrophique pour Iran, pour le Moyen-Orient, pour le monde entier. Il ne faut pas que ça doit réussir. Un échec c'est très, très mauvais pour l'humanité.
Merci beaucoup, Sarah. Ça vous prend beaucoup de courage pour nous parler ce matin. Elle est juriste d'origine iranienne. Elle était à cette manifestation. Elle préfère, et je comprends, ne pas donner son nom. Elle a repris le droit de voyager en Iran après avoir été interdit d'entrer pendant 25 ans. Et ce qui s'est passé en fin de semaine, bien sûr dans les rues de Montréal, mais partout, c'est un appel en solidarité avec ces femmes. Et c'est tout à fait... je pense qu'il y a une page d'histoire qui est en train de s'écrire. Et comment ça va se terminer, personne ne le sait. On va d'ailleurs parler dans quelques instants avec Delphine Minoui, qui est correspondante, qui suit, parce qu'il y a eu encore en fin de semaine, puis on finit par avoir des bribes, manifestations, des affrontements, des arrestations, notamment à l'Université de Téhéran. On vous donne les détails dans les prochaines minutes.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Autre, bien sûr, événement qu'on surveille sur la scène internationale, la guerre en Ukraine. On apprenait que la ville de Liman était passée sous contrôle ukrainien. Je disais ce matin que les Ukrainiens, après quelques combats, disons plus farouches, se sont retrouvés face à des militaires russes complètement désordonnés, qui ont quitté tout ça dans un contexte de la déroute, si on veut, de l'armée russe sur le terrain. Et puis, au même moment, on sait que l'Ukraine a officiellement fait une demande d'adhésion, une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN, ce qui fait que ça vient encore une fois, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, peut-être faire monter d'une coche ce conflit entre les Russes et les Ukrainiens. Charles-Philippe David est avec nous. Bonjour Charles-Philippe.
Bonjour Paul.
Alors, on en parlait vendredi. Quand Poutine proclame l'annexion de territoire et qu'en même temps, sur le terrain, il perd le contrôle de son territoire, qu'est-ce que ça a comme effet sur son leadership en Russie?
Je pense que ça fragilise pas le leadership de Poutine. On n'est pas rendu, bien sûr, à une menace contre son régime, loin de là. Mais certainement, ça démontre en tous les cas que la victoire promise par la Russie n'est pas du tout pour demain. Au contraire, d'ailleurs, je pense on peut dire que le momentum est vraiment du côté ukrainien. Et l'Ukraine a vraiment réussi une contre-offensive qui a complètement surpris non seulement Poutine, mais je pense beaucoup d'observateurs, même occidentaux, qui se réalisent ou reconnaissent que l'Ukraine a les moyens, sans doute, de ses ambitions, donc de cette contre-offensive contre la Russie.
Comment analyser cette déroute de l'armée russe d'abord, et puis de la stratégie russe? On dit que le commandement militaire a fait plusieurs erreurs. La mobilisation forcée de 300 000 hommes se traduit par des hommes qui quittent le pays, qui tentent de quitter le pays. Comment expliquer ce qui se passe avec la Russie?
Ben, je pense qu'il n'y a pas grande motivation du côté des soldats russes, et d'autant que les raisons pour lesquelles ils sont déployés en Ukraine ne s'avèrent pas du tout sur le terrain. Ce qu'ils ont entendu au départ, c'était qu'ils allaient, au fond, aider les Ukrainiens à se débarrasser de leur régime néo-nazi. C'était ça la raison fondamentale qu'on leur a donnée pour justifier cette guerre à leurs yeux. Et quand ils se rendent compte sur le terrain que ça n'a rien à voir avec les raisons qu'on leur a données ou divulguées, ben, la propagande russe subit vraiment des revers, avant même de subir des revers militaires. Alors, on peut comprendre les désertions qui sont apparemment extrêmement nombreuses sur le terrain. On peut comprendre aussi qu'il y a une forme d'incompétence au niveau de la direction, comme tu l'as souligné, de l'armée russe, puisque celle-ci a perdu une dizaine de généraux. C'est plus que les Américains n'ont perdu dans toute leur guerre depuis 1945. On peut pas perdre comme ça les échelons ou les hauts gradés de votre armée ou de notre armée sans subir des conséquences terribles sur le leadership, le moral et les opérations, évidemment, encore une fois, sur le terrain. Donc, c'est quand même une débâcle militaire pour la Russie, qui prétendait avoir une grande armée, mais qui voit aujourd'hui cette armée être réduite à devoir combattre pour protéger ou préserver les acquis qu'elle avait fait depuis 6 mois en Ukraine. Et ce qui ne sera pas le cas, parce qu'elle va perdre du terrain encore, je crois.
Le président Zelensky qui formule une demande d'adhésion accélérée à l'OTAN. Première question, Charles-Philippe, est-ce que cette demande-là sera acceptée? Et quel est l'impact dans le contexte de la guerre actuelle?
Je pense que cette demande va être tacitement acceptée, mais ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant qu'officiellement elle soit avalisée, parce qu'on ne veut pas provoquer la Russie. C'était quand même, Paul, souvenons-nous, l'enjeu principal, ou en tout cas évoqué par Poutine, pour attaquer même l'Ukraine. Donc, ça va prendre du temps. Mais clairement, ça va être difficile pour l'OTAN de refuser à l'Ukraine d'entrer dans cette organisation alors qu'on vient de manière expéditive de faire presque entrer rapidement la Suède et la Finlande. Donc, y aurait une perception de deux poids, deux mesures si on refusait à l'Ukraine cette entrée. Et donc, voilà une décision complètement contre-productive pour Poutine. Son intention était d'écarter l'Ukraine de l'OTAN et il l'a rapprochée avec tout ce qui est arrivé depuis 6 mois. C'est certainement en tout cas une décision politique et une grave erreur qu'aura commise Vladimir Poutine.
Merci beaucoup. Bonne journée. Charles-Philippe David, qui est le président et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Et puis un mot sur le Brésil aussi. Premier tour du scrutin hier, la droite et la gauche s'affrontent. Deux personnages plus grands que nature, le président sortant, Bolsonaro, qui est un homme de droite, qui croyait pas trop à la COVID et qui a même dit, avant le résultat d'élection d'hier, que l'élection était probablement truquée, que le vote électronique était manipulable. Il y avait des échos à la Trump dans son discours. Les sondages le mettaient derrière par 15 points devant la gauche, représentée par Lula, l'ancien président, juste pour besoin de contexte, qui avait été arrêté, mis en prison dans une affaire de corruption et sorti de prison avec presque 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et le juge qui l'a libéré a dit qu'il a été victime d'un procès biaisé. Alors les deux s'affrontent et au terme de ce premier tour, c'est beaucoup plus serré. C'est 48, en gros, la 43. Alors que les sondages, je vous le disais, mettaient Lula nettement en avance et peut-être même gagnant au premier tour, ce qui ne sera pas le cas. Puis il y aura un autre tour, le deuxième, le 30 octobre.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, la presse canadienne hier publie des chiffres concernant les cas d'abus sexuels ou en tout cas de dénonciation d'abus sexuels dans les services de garde. Et c'est à peu près un cas aux 2 semaines. C'est pas plus, c'est pas moins. Ça semble relativement stable. Mais là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant de ces signalements? Geneviève Bellil, la directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Madame Bellil, bonjour.
Bonjour à vous.
Donc, un cas aux 2 semaines de signalement. Quand vous faites un peu l'analyse de ça, vous dites quoi? Ça n'a pas changé, c'est comme ça? Ou s'il y a des pratiques qu'on devrait améliorer?
Bien, c'est sûr qu'il y a des pratiques qu'on devrait améliorer. Comme vous le dites, la situation peut avoir l'air stable d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue qualitatif. Chaque cas est un cas de trop et c'est sûr qu'il faut s'améliorer. Nous, on a parlé d'avoir de la formation annuelle pour tous les intervenants. On a parlé aussi d'avoir des meilleurs mécanismes de circulation d'informations avec le réseau de santé. Malheureusement, là, la confidentialité fait qu'on échange peu d'informations puis on a l'impression qu'on manque là, de surveillance, de filets de protection pour protéger nos tout-petits.
OK, mais ces cas de en fait, ces signalements, on parle là, service de garde, donc des enfants de 0 à 4-5 ans. Est-ce que il y a un protocole universel qui est suivi, c'est-à-dire qu'il y a un signalement, on implique tout le monde, là, la police, la DPJ, le CPE, pour voir exactement si c'est fondé ou pas, puis comment on fait pour protéger l'enfant?
Oui, normalement, il y a un mécanisme qui se met en place, qui est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'entente multisectorielle. Ben, souvent, l'enjeu, c'est que la DPJ ne sait pas nécessairement si c'est une personne aussi qui a un service de garde. La majorité des cas qu'on a, ce sont des madames qui sont à la maison. Donc, il faut que le réseau de santé et services sociaux soit au courant que cette personne-là offre des services éducatifs. Si c'est un signalement qui touche les enfants du service de garde, là, le bureau coordonnateur va être avisé. Mais si c'est les enfants de la RSG ou un enfant qui est reçu en famille d'accueil, c'est pas automatique que le mécanisme va s'activer.
Pourquoi c'est pas automatique?
Ben, il faut absolument que dans le cadre de l'enquête, la DPJ ait l'information que c'est une personne qui a un service de garde à la maison. Et vu qu'on partage pas de base de données commune, vu qu'il n'y a pas de circulation de l'information, puis que le mécanisme est déclenché juste quand il y a un signalement, donc on n'a pas d'habitude de travail, bien, ça fait qu'on a de la misère à avoir une bonne visibilité sur le territoire de où sont les services de garde là, du côté de la protection de la jeunesse.
Bon, on sait qu'il y a un manque de ressources, peu importe la forme du service de garde. Avez-vous l'impression que, allez dire, on assouplit un peu les règles, on est peut-être moins regardant, puis on essaie de recruter le plus de gens possible?
Bien, c'est sûr que je vous dirais que d'un côté, il y a comme une avancée positive en matière de protection, mais avec des éléments de souplesse. Je m'explique. À partir de 2026, dans le cadre d'une nouvelle loi qui a été adoptée, il n'y a plus personne au Québec, hors un grand-parent qui voudrait garder ses petits-enfants, qui va pouvoir offrir des services de garde éducatif en milieu familial sans être régi par un bureau coordonnateur. Donc ça, c'est sûr que c'est peut-être 7 000, 8 000 personnes qui offrent des services actuellement qui sont sous le radar. Donc, de ce point de vue-là, c'est une bonne nouvelle. Cependant, pour que ces personnes-là acceptent d'être reconnues, il y a eu des assouplissements. Puis là, il va falloir regarder qu'est-ce que ça va donner dans le temps. Je vous donne quelques exemples. On va faire seulement l'entrevue du conjoint et des enfants adolescents au moment de la reconnaissance. Avant, on faisait l'entrevue à tous les 3 ans. Et souvent, malheureusement, la majorité des cas qu'on a, c'est en milieu familial. Et ce sont malheureusement les conjoints ou les enfants un peu plus vieux qui vont poser des gestes envers les enfants du service de garde. Donc, ça, on pense que c'est quelque chose, malheureusement, pour lequel on va perdre un peu là d'informations. On avait aussi des certificats médicaux qui étaient donnés au début de la reconnaissance pour s'assurer que la personne là était bien en capacité de pouvoir faire le service de garde éducatif. Donc, c'est des choses là, qu'on va devoir absolument surveiller. On va avoir plus de gens reconnus, mais on a un petit peu moins d'outils qu'avant pour assurer le suivi.
Vous parlez des services de garde en milieu familial. Est-ce qu'il y a des cas aussi dans les CPE? Il me semble que j'en ai vu, là.
Oui, malheureusement, il y en arrive aussi. Une éducatrice, un éducateur, ça peut arriver. C'est des cas qu'on a vus dans les dernières années. C'est pour ça que je vous dis, puis c'est quelque chose qui avait été recommandé aussi par la Commission sur les droits de la personne et de la jeunesse. C'est quelque chose qui a été recommandé aussi dans le cadre du rapport Laurent. C'est vraiment, il faut absolument avoir annuellement de la formation. On voit aussi que le niveau de signalement qui émane du réseau est encore faible. Est-ce qu'on veut, est-ce que le lien de proximité avec les familles est trop grand? On s'est posé des questions avec des chercheurs. Donc, nous, notre recommandation, c'est d'avoir annuellement pour tout le monde la formation. Il faut s'assurer que toutes les paires de yeux là soient bien vigilantes pour être sûr que ça arrive pas.
Parfait, merci beaucoup. Bonne journée. Geneviève Bellil est la directrice générale de l'Association québécoise des centres de la petite enfance.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va entendre beaucoup les professionnels de la santé dire que c'est pas une bonne idée de faire ses recherches sur Internet quand on soupçonne un problème de santé. Ce qu'on appelle souvent l'auto-diagnostic. Mais dans certains cas, disons que les recherches sur le web peuvent donner de bons résultats. Caroline Côté est avec nous. Elle est animatrice choriste à l'émission En direct de l'Univers. Puis à un moment donné, elle voyait l'état de santé de sa mère dépérir, puis une maladie que les médecins n'arrivaient pas à cerner. Elle a fait un certain nombre de recherches, ce qui, dans ce cas, a aidé. Caroline Côté, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Parlez-moi de votre mère. Qu'est-ce qu'elle avait comme symptômes là, qui vous inquiétaient, d'abord?
Ben en fait, d'abord, je dois dire que moi, je suis fille unique de mes parents et que pour me protéger, ma mère m'a caché ses symptômes durant de nombreux mois, voire même peut-être même une année. Donc, en août 2020, c'est la pandémie. À un moment donné, je me rends compte que ma mère a beaucoup migré. Et là, je lui pose des questions et elle me dit, ouais, c'est que j'ai beaucoup de reflux gastrique actuellement. Et je vois aussi plein d'autres spécialistes, un pneumologue, j'ai un rhumatologue, j'ai un spécialiste en médecine vasculaire. Et ma mère avait déjà le syndrome de Raynaud depuis depuis plusieurs années. Et là, je me pose la question, ma mère qui a toujours été en excellente santé, qui est très active, qui n'a jamais pris de médicaments, donc elle n'en sait pas plus, on lui a rien dit d'autre, puis pour le moment, elle prend des pilules pour calmer les reflux gastriques. Donc, je pars de mon côté, je m'en vais à la maison et je suis en train de taper sur Internet vraiment les mots syndrome de Raynaud, pneumologue, rhumatologue, etc., etc. Et là, je tombe sur la maladie sclérodermie. Et là, je regarde tout ça et je me dis, c'est sûr que ma mère, c'est ça qu'elle a. Donc, deux jours plus tard, je retourne chez elle et elle est en 30 minutes. Donc, c'est rare que je la côtoie dans un bref moment comme ça. Et là, je m'en vais la voir et je dis, maman, c'est sûr que tu as la sclérodermie. Et juste avant, j'avais été à Sclérodermie Québec pour aller chercher de la documentation. Et c'est vraiment ça qui a validé avec toute la documentation reçue, tout ce que j'ai lu, que c'était vraiment cette maladie-là. Donc, c'est vraiment moi qui ai dit, écoute, je sais que je suis pas médecin. Je sais que tu vas me dire que de pas me prendre pour une médecin, mais je te confirme, c'est sûr que tu as la sclérodermie.
Là, il faut dire qu'elle a été quand même tout de suite référer à des spécialistes, là, une équipe du CHUM.
Exactement. En fait, c'est que dans les semaines qui ont suivi, j'ai assisté, grâce à Sclérodermie Québec, à des conférences qui sont gratuites. Et lors d'une conférence, j'ai posé une question. Et c'est là que, justement, M. Gaétan Barry, le président de Sclérodermie Québec, m'a appelé. Et il m'a dit, écoutez, je pense que votre mère, justement, elle a la sclérodermie possiblement diffuse, qui est la forme plus grave de la maladie. Et si vous voulez avoir toutes les chances de votre côté de sauver votre mère, je vous conseillerais vraiment d'aller vers les médecins du CHUM qui sont vraiment les spécialistes dans la maladie.
En quelques mots, qu'est-ce que c'est que la sclérodermie?
En fait, c'est une maladie auto-immune qui est incurable, qui est de cause inconnue et trop souvent méconnue, justement parce que même le médecin de famille de ma mère ne savait pas ce qu'était la maladie. Les cas sont en hausse, on ne sait pas vraiment pourquoi. Et avant de vous dire qu'est-ce que c'est exactement, je dois dire que c'est difficile de dire le nombre de cas parce que la maladie est complexe avec plusieurs symptômes qui sont difficiles à diagnostiquer. Donc, c'est un dérèglement du système immunitaire, l'inflammation, atteinte microvasculaire, fibrose, et le déséquilibre de tout ça cause un durcissement de la peau par un excès de collagène. Donc, on l'appelle la maladie qui momifie. Donc, scléro, c'est pour dur. Dermis, c'est pour peau. Donc, ça, c'est l'étymologie un peu du nom de la maladie. Et c'est surtout que ça peut atteindre les organes internes et causer la mort. Et d'ailleurs, ma mère a une fibrose pulmonaire qui est au stade premier, mais quand même, c'est quand même assez inquiétant tout ça.
Et comment elle va maintenant? Là, vous me dites que ça demeure inquiétant, mais comment elle va?
La bonne nouvelle, c'est que puisqu'elle a été prise en charge, toute son inflammation a vraiment diminué. Le syndrome de Raynaud demeure, mais au niveau des reflux qu'elle avait, tout est contrôlé. La peau qui était rendue très dure, elle pouvait même plus plier son ventre. C'était comme si c'était une femme enceinte. Tout ça est résorbé grâce justement à la médication, au suivi rigoureux vraiment des médecins du CHUM. Le premier rendez-vous, juste pour vous dire, avait duré 3 heures dans le cabinet du médecin. Elle avait tâté sa peau complète, avait posé toutes les questions concernant la maladie. Donc, vraiment un suivi rigoureux. On voit les médecins, le pneumologue, la rhumatologue, là, avec des suivis plusieurs fois par année. Donc, on apprécie énormément le service qui lui est donné. Donc, elle va super bien et elle est très active, elle est positive un jour à la fois. Donc, tout va bien de ce côté-ci grâce à tous ces médecins et à Sclérodermie Québec, entre autres.
Heureusement que vous aviez fait ces recherches-là.
Effectivement. En fait, c'est vraiment comme je vous ai mentionné, en raison de cette maladie qui est complexe. Et malheureusement, le médecin traitant de rhumatologie d'un hôpital que je ne nommerai pas, avait pas vraiment fait les suivis adéquats. Donc, ma mère qui prenait aucune médication, c'est une maladie qui peut pas se traiter sans médication parce que c'est auto-immune et il y a beaucoup d'inflammation. Donc, ma mère, finalement, la maladie progressait dangereusement, même que notre médecin au CHUM avait même parlé peut-être d'une greffe de cellules souches. Et heureusement, puisque les traitements ont bien répondu, ma mère peut poursuivre en ce sens, mais cellules souches égale gros traitement de chimiothérapie, risque de mortalité. Donc, heureusement, on a évité là, cette avenue-là.
Et puis, en terminant, le 18 octobre, vous allez animer la 23e édition là, du souper bénéfice de la Sclérodermie Québec.
Effectivement, donc c'est un cocktail souper gastronomique avec un spectacle de Robert Charlebois, avec comme invité Guylaine Tanguay, France D'Amour, Sarah Dufour, Jérôme Charlebois, et on affiche complet actuellement 400 personnes, on est vraiment super heureux, mais si les gens, bien sûr, souhaitent faire des dons, c'est au sclérodermie.ca, et je tiens également à mentionner que j'anime totalement bénévolement, oui, donc je donne mon cachet à la cause parce que c'est super important, et sans Sclérodermie Québec, sans la chaire de recherche de l'Université de Montréal, qui est situe au CHUM, on pourrait pas justement essayer de trouver un traitement curatif pour la maladie. Déjà là, la médication fonctionne bien, du moins pour ma mère, donc c'est important, la recherche, la sensibilisation, l'information, les services surtout aux personnes atteintes de cette maladie-là incurable.
Merci, bonne journée à vous.
Merci, monsieur.
Au revoir. Arcand. Caroline Côté, qui est animatrice, choriste à l'émission en direct de l'Univers. Je sais, il y a des médecins qui vont dire non, commencez pas à dire aux patients d'aller faire des recherches sur le web puis s'auto-diagnostiquer parce qu'ils débarquent dans le bureau du médecin puis ils en savent plus que le médecin, pense-t-il. Mais dans certains cas, c'est vrai que ça peut être efficace d'aller voir puis d'aller chercher de l'info puis de regarder ça d'un peu plus près. Et je connaissais même pas ça. J'ai appris ça en lisant les notes sur l'histoire de la mère de Caroline Côté.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.